Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Hier, en point de presse, Dr Boileau présentait notre système hospitalier comme étant solide et qu'il était essentiellement prêt à recevoir tout ce qu'on allait lui envoyer, puis que le personnel était au front, bouclier, épée à la main. Là, ça, c'est moi qui l'ajoute. Et bref, tout va bien, Madame la Marquise. J'ai voulu avoir un autre son de cloche, donc on va en discuter avec Dr Amélie Boisclair, qui est interniste intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Et par transparence, je corresponds depuis un bon moment avec Amélie, parce qu'elle est une source d'information précieuse pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Elle est aussi très posée et, disons, plus patiente que moi. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Donc, le système de santé, des fois c'est bien la patience, c'est le gant de fer dans une main de velours. Est-ce que tu trouves que le système de santé est très solide présentement?
Non. Je vois pas comment dire ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on entend par un système de santé solide. Évidemment, je pense que tout ça tient sur le personnel qui habite ce système de santé-là. Qui fait des miracles au quotidien pour essayer de trouver, puis tu sais, je parle du gestionnaire là-dedans aussi, là, pour essayer à chaque jour de trouver des solutions pour voir comment je fais pour traiter tous les patients. Tu sais, c'est pas un secret, là, c'était difficile avant la pandémie, ça a été très difficile pendant la pandémie, puis pendant certaines périodes, c'est encore pire. Là, je dirais au mieux qu'on est dans un équilibre précaire, mais on se rappelle qu'il y a des urgences qui sont en manque de personnel. Dans mon unité de soins intensifs, c'est pas toutes les lits qui sont ouverts parce qu'on manque de personnel. Fait que moi, justement, quelque part, le point de rupture, la minute que tu n'es pas capable d'ouvrir tous tes lits, tous tes départements, parce qu'il y a une limite qui a été atteinte, qui normalement, on aurait souhaité qu'elle soit jamais atteinte déjà. Là. C'est un peu comme si on s'était habitué et qu'on avait normalisé ça. Mais c'est pas notre idéal, disons.
Parce que c'est ça, là, du délestage, c'est ça, tu le dis, on s'est habitué à ça, on s'est habitué à ce qu'il y ait tout le temps quand même pas mal d'hospitalisations liées avec la COVID. Puis là, je comprends qu'il y a une différence avec la COVID, puis en raison d'eux, là, mais ça reste compliqué pour vous, même si c'est juste avec la COVID. Puis des en raison d'eux, il y en a beaucoup. Puis présentement, des chirurgies, il y en a qui sont annulées. Puis c'est pas juste des chirurgies du genou, là.
Ben, en fait, l'affaire, c'est que, tu sais, oui, évidemment, là, les gens parlent avec ou sans la COVID ou quoi que ça, mais globalement, un patient qui a besoin d'être traité, c'est un patient qui a de la COVID ou pas. Puis nous, on s'occupe des patients qui ont la COVID, mais on s'occupe aussi du reste de la population. Donc, c'est sûr que là, si on dit notre capacité est dépensée, puis on n'est pas capable de s'occuper de tout le monde, puis il y a des délais qui arrivent, bien, en fait, nous, c'est pour ça qu'on fait autant de prévention, c'est-à-dire, bien, écoute, il y a une maladie là sur laquelle on a un pouvoir, puis de façon assez aiguë, si on veut. Parce que souvent, les gens disent, oui, mais tu fais quoi pour le diabète? Tu fais quoi pour les maladies? Bien, évidemment qu'on agit là-dessus, mais ça, c'est des résultats à plus long terme. Là, présentement, on ne veut pas couler dans les médias, parce qu'on veut être là pour tout le monde. C'est que si on est capable de réduire le COVID, bien, chaque cas qui n'est pas malade, qui n'a pas besoin de nos services dans les médias parce qu'il y a une forme sévère, ou même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'il y a des symptômes qui persistent, puis ça va utiliser des ressources, hein, essayer de comprendre ce qui se passe avec ce patient-là. Bien, ça, c'est toute une façon de nous aider à ce que tout le monde bénéficie du système de santé.
Hier, Dr Longtemps et Dr Boileau, tour à tour, ils ont insisté pour dire que le masque était très efficace pour réduire les infections, mais que c'était pas réaliste de le recommander. Et là, ça t'a inspiré la question suivante. Pourquoi la santé publique peut pas recommander une mesure de prévention? As-tu une réponse?
Non.
Ça a l'air bête un peu comme ça, là, mais c'est
les... Ben, je veux dire, ma réponse a de l'air bête aussi. Bon, là. Mais non, j'ai pas d'explication. C'est dans le sens que le gouvernement ne veuille pas imposer quelque chose, ça, je pourrais le comprendre. T'sais, ça ne veut pas dire que je serais d'accord, mais je pourrais comprendre le choix politique. Que la santé publique n'ose pas dire haut et fort, nous vous recommandons de. Si on s'entend, c'est une recommandation, mais au moins le message est clair. Ça, je le comprends pas. Parce que, tu sais, ils ont quand même vraiment insisté, comme tu le disais, sur l'efficacité du masque. Hein. On sait que ça marche. Ça marche encore plus quand c'est pas juste la personne qui veut se protéger qui le porte, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui a un masque devant elle. Ça marche encore plus si on est dans un endroit qui est bien aéré. OK? Fait que c'est pas juste mettre un masque pour soi, puis là, on croise les doigts qu'on faufile à travers le COVID. Là. Ça marche encore mieux quand tout le monde porte le masque. Puis là, encore là, c'est d'avoir une recommandation claire, parce que là, on est allé après à l'emporte-pièce. Que les gens jugent leur propre risque. On s'entend, il y a des gens qui sont très informés. Là. Ils ont c'est dégreffé, ils ont des médicaments immunosuppresseurs. Il y en a d'autres qui réalisent pas qu'ils sont à risque. T'sais, on jase de même, là, mais par exemple, des hommes depuis 60 ans qui ont le diabète, ça fait pas mal de monde au Québec. Là. Des gens qui côtoient ces gens-là, ça fait beaucoup de monde. Des femmes enceintes, oh, comment tu fais pour savoir que ta caissière, que tu viens de croiser, est enceinte ou qu'elle a une maladie de Crohn, puis elle, pour bien fonctionner dans la vie, elle prend des médicaments parce que normalement, c'est supposé lui donner une vie normale. Tu sais, c'est ce côté-là, un petit peu de vue d'ensemble. Pour dire, tu sais, on revient toujours à la même chose. Oui, je me protège, moi, parce que le COVID peut avoir des conséquences sévères et sérieuses. Hein, on commence à être au courant. Mais de se rappeler qu'on vit dans une société. C'est pas juste un risque individuel. Parce que quand c'est la société qui est à risque, quand c'est notre système de santé ou notre économie, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de prendre des congés payés puis que ça se passe bien dans son budget, ou de se dire, OK, mais là, moi, j'ai 3 employés, mais il y en a 2 qui ont un COVID, je suis pas capable d'ouvrir mon commerce. Ça aussi, c'est des impacts de la maladie. Fait que c'est juste de porter un masque, ça pourrait aider, tu sais. Puis on s'entend, c'est pas agréable de porter un masque, mais c'est pas la fin du monde non plus, là. Puis si on n'avait pas un germe aérosol qui se transmet, ben là, je vous dirais pas ça, je vous dirais pas porter un masque, c'est parce qu'on a une condition, puis je voudrais bien fermer les yeux, là, mais il va pas disparaître. Ça, le message de la santé publique était clair. Il y a une augmentation des cas. Moi, ce que je prônerais, c'est soyons actifs pour essayer de limiter le plus possible le cas qui manque pour que tout le monde en bénéficie.
Ouais, et quelque chose que je comprends pas, puis tu vas peut-être me trouver naïf, mais il y a quelques années au Québec, on a interdit la cigarette dans les lieux publics. Pourtant, le cancer du poumon, c'est pas une maladie qui est contagieuse, mais il y avait un risque qui était pour les tiers. La COVID, c'est super contagieux. C'est un des virus les plus contagieux de l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça devrait pas justifier une obligation? Si je te le demande directement, est-ce qu'on l'a enlevé trop tôt, le masque? Est-ce qu'on devrait le réimposer?
Le comparatif avec la cigarette pour faire une espèce de côté légal à long terme, ça, je peux pas vraiment. Tu sais, il y a tout le temps un côté de contexte, là. Tu sais, je veux dire, dans notre idéal, la cigarette, ça va au point même où on y met autant de bâtons dans les roues possible pour, à la limite, dans le meilleur des mondes, ça disparaîtrait, là. Tu sais, après, je sais pas comment dire ça. Oui, COVID, ça a un impact sur tout le monde. Ça a un impact sur soi, sur les gens qu'on connaît, puis même sur ceux qu'on connaît pas. Est-ce qu'on l'a enlevé trop tôt? Moi, quand je parlais avec mes collègues en microbiologie dans mon hôpital, tu sais, déjà, ça venait de commencer, puis ils nous disaient, ça va être long, une couple de semaines, une couple de mois, puis on dit sûrement des années. Puis je me rappelle une conversation avec un collègue, il m'avait dit, tu sais, la dernière chose qui devrait disparaître, là, c'est le masque. Puis, tu sais, quand il pense tout bêtement, là, ça fait beaucoup de sens. Mais ça se transmet dans l'air. Puis surtout dans les endroits clos, ben, tant qu'on n'aura pas attaqué pour améliorer notre qualité de l'air ou qu'on se ramasse dans des endroits où c'est impossible que tout le monde aille le masque en même temps, ben là, tant que ce virus-là est là, on est un peu mal pris. Il faut se protéger. Puis on dirait que le masque a été présenté comme si c'était une forme de torture, puis que ça c'est devenu un symbole. Tu sais, c'est vraiment devenu un symbole de liberté, un symbole de beaucoup trop de choses. Moi, ben, c'est moi qui est naïve, là. Des fois, je me dis, OK, bon, on prête ça dans le masque parce que c'est, là. On s'entend, là, c'est un objet qu'on utilise pour se protéger. C'est aussi simple que ça. Parce que, tu sais, si on parle, je sais pas, moi, la ceinture, ben, qu'on met la ceinture, c'est parce que c'est un mode de protection. C'est pas parce qu'on dit, je veux être immobilisé dans mon auto. Je sais pas comment dire ça. C'est toute une question d'idéologie qu'on met derrière. C'est pas un symbole, c'est une mesure de protection. On a besoin de se protéger, on le met. Si un jour on a la chance de passer à autre chose, on le mettra pas. C'est aussi simple que ça.
Oui, puis on s'entend, on le met pas dehors, puis on le met pas à la maison non plus. Tu as parlé d'aération. C'est évidemment, c'est un enjeu qui est immensément important, puis on sait que ça traîne un peu dans les écoles. Dans le système de santé, je sais pas, c'est comment, à ton hôpital, toi, est-ce qu'on a changé des choses pour la ventilation et l'aération?
Ben, changer des choses, oui. Dans le sens que moi, j'ai la chance d'avoir un hôpital qui est, somme toute, relativement récent. C'est de quoi, peut-être 25 ans. Fait que c'est sûr que la structure était différente, mais dès le début de la pandémie, nous autres, au mois de mars 2020, là, on a défoncé les murs pour que chacune de nos chambres devienne des chambres à pression négative.
Ah ouais?
Ben oui. Puis ça, on a fait ça en quoi? Deux semaines, là. On avait 17 chambres à pression négative. Fait que tu sais, quand les gens me disent, on s'entend, je le sais que ça, c'est pas une question de docteur, c'est une question d'ingénieur puis de physicien. Tu sais, souvent, là, c'est ça qu'on... que j'essaie de donner parce que ce n'est pas mon expertise, c'est de dire, hey, mamie, on parlait d'ouvrir les fenêtres, là, quelqu'un m'avait expliqué que ouvrir les fenêtres, ben, c'était pas si simple que ça pour échanger l'air, puis je dis, ah, OK. Mais, oui, on le fait, puis c'est sûr que c'est des mesures temporaires. C'est pas cute. On avait des belles chambres de soins intensifs neuves, mais là, il y a une grosse machine temporaire avec le tuyau qui va dans le mur avec du duct tape. Mais ça marche. Ça marche, puis on a protégé notre personnel comme ça, on a protégé les familles quand ils allaient voir leurs proches. Ça fait une grosse différence. Après, pour dire, est-ce qu'il y a eu des changements, bien, les hôpitaux font les recommandations de leur ordre respectif. T'sais, on peut pas juste dire, bien, nous, on va... enfin, tu sais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Je comprends qu'il y a peut-être aussi un petit peu de politique là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce parce que les gestionnaires sont directement sous la coupe du ministère de la Santé.
Ben, écoute, aussi une question de budget et de ressources. Hmm. On s'entend, il y a beaucoup de choses, tu sais, qu'on dit. C'est pour ça aussi, des fois, c'est important de prendre un pas de recul, tu sais, qu'on dit, on devrait passer tout le temps, tout le monde, soi-même, pour avoir le contrôle. Ben, la question, c'est, OK, mais comment tu fais pour avoir autant de matériel, autant de personnel pour tester tout le monde, autant de machines pour les analyser? C'est pas si simple que ça. Mm-hmm. À chaque fois, il y a tout le temps une boîte de Pandore, mais on peut revenir à ce qui est le plus simple possible. Si on essayait de pas l'attraper, tu sais, au moins de minimiser notre infection en faisant nos activités dehors, en ouvrant nos fenêtres, en s'informant sur la filtration, est-ce que ma maison, mon commerce est adéquat. Le fédéral a fait un document là avec aussi les nouvelles constructions des subventions. Et si on fait cet exercice-là, bien, tout le monde fait sa part pour se protéger puis se protéger les autres. Puis au bout de la ligne, bien, c'est tout le monde qui va en bénéficier.
Bon, écoute, le message est entendu. On invitera peut-être Dr Boisclair à aller faire un tour à ton hôpital pour voir les travaux laids, mais efficaces. Amélie Boisclair, je rappelle que tu es interniste intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
À bientôt.